Seconde journée de nos rencontres d'histoire avec Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France. Vous animez les sites internet et les collections de livres La République des idées et Raconter la vie. Vous êtes presque un habitué de cette salle, Pierre Rosanvallon, pour être venu présenter quelques-uns des livres, et notamment il y a 2 ans pour le lancement de Raconter la vie, avec le livre qui fondait ce projet, Le Parlement des Invisibles. Après la contre-démocratie, la légitimité démocratique et la société des égaux, vous avez donc fait paraître il y a quelques mois le 4e volet de votre enquête sur la mutation des démocraties contemporaines, Le Bon Gouvernement. Donc évidemment, avec un tel titre, il était plus que tentant de vous inviter pour ces rencontres qui ont le verbe gouverner au centre. Le titre fait aussi référence à la fresque de Sienne, auquel a fait référence hier Philippe Hamon et qui était l'objet du livre Conjurer la peur de Patrick Boucheron. Vous reprenez dans Le Bon Gouvernement une idée que vous aviez développée dans Le Parlement des Invisibles et qui était déjà chez vous depuis quelque temps, celle d'une crise de la représentation qui provoque le désarroi et la colère des citoyens, mais vous allez plus loin, puisque pour vous, nous vivons aussi une crise du mal-gouvernement, et c'est cela que vous décrivez avant d'expliquer les principes du bon gouvernement. Je le cite d'abord, on aura l'occasion évidemment d'y revenir tout à l'heure. Lisibilité, responsabilité, réactivité, parler vrai et intégrité. Je précise aussi que pour vous, ce livre vient combler un manque, l'absence à ce jour de théorie démocratique de l'action gouvernementale. Je vais vous interroger donc sur ce qu'est mal et bien gouverner. Mais chez nous, gouverner, ça passe d'abord par un choix, celui de l'élection. Nous sommes en période électorale, mais est-ce que l'élection aujourd'hui assure chez nous le bon gouvernement ?
Il est sûr que le moment électoral, surtout le moment présidentiel, reste un moment central dans la vie de nos démocraties. Mais en même temps, une grande partie du désenchantement démocratique est liée au fait que...
Je vais juste vous demander de rapprocher le micro.
Pardon. Une partie du désenchantement démocratique est liée au fait que l'élection a une capacité démocratique qui est en train de décliner. Je voudrais très rapidement expliquer cela avant qu'on parle du mal-gouvernement, qui est une des dimensions de ce problème. D'abord, l'élection a un but simple, c'est de mettre en place des personnes qui représentent la société. Donc l'élection, c'est une procédure qui a pour but de produire de la représentation. Or, on voit que cette capacité de produire de la représentation qu'a l'élection est en train de décliner. Et pourtant, toute l'histoire de la démocratie a été celle d'essayer de mettre en place des procédures qui améliorent l'élection. Dès le début de la démocratie en France, c'est-à-dire dès septembre 1789, on voit une réflexion sur la mal-représentation. Comment faire en sorte que les représentants soient davantage l'image des représentés? Comment faire en sorte que, à travers les élus, la société se sente représentée au pouvoir? Alors, on a essayé pendant presque 2 siècles tout un ensemble de techniques. On a inventé la technique de la limitation du nombre de mandats. On a inventé la technique de la durée limitée des mandats. Pensez que pendant la Révolution française, on change de président de l'Assemblée nationale toutes les semaines pour éviter que, justement, il s'encroûte. Et que dans la première Constitution française, on réélit les députés chaque année. Le mandat législatif est un mandat annuel. Et encore aujourd'hui aux États-Unis, le mandat législatif est limité à 2 ans. Et à l'époque, quand c'était mis en place par la Constitution de Philadelphie, ça avait été considéré comme une sorte de recul conservateur. 2 ans, mais c'est beaucoup trop long. Il y avait eu tout un mouvement pour que ça ne soit des mandats d'une année. Donc il y a cette question de la durée des mandats. On a inventé aussi aux États-Unis la procédure des primaires. Dès la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, récemment, on a mis en place des mécanismes de la parité. On a essayé par bien des moyens d'améliorer la représentation. Et pourtant, on peut dire qu'il y a le sentiment que les élus ne participent pas assez à la représentation de la société. Pourquoi ? Pour une raison très simple et fondamentale, c'est que les partis politiques sont maintenant des organes gouvernants au lieu d'être des organes de représentation de la société. Le rôle des partis, c'est en quelque sorte d'épauler les gouvernements ou de les critiquer, bien sûr, mais n'ont plus une fonction de représentation. Donc il y a l'élection à un contenu représentatif qui décline. Là, il y a une première source, pourrait-on dire, du désenchantement démocratique. Une deuxième source du désenchantement démocratique, c'est le fait que l'élection, elle produit simplement, elle repose sur le principe de majorité. Mais la majorité, ce n'est pas toute la société. Et donc, il y a cette tension qui a toujours existé, mais qui est devenue très forte, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on a 55% des voix, on a l'impression que c'est presque un raz-de-marée électoral. Toutes les sociétés se gouvernent avec des majorités très justes et des majorités très limitées. Ce qui est complètement contraire à ce qu'on pensait de l'idéal démocratique autrefois. On pensait que l'idéal démocratique, ce serait les très grandes majorités, ce serait le peuple dans son ensemble. Et il y avait implicitement dans l'idée démocratique l'idée que quand l'élection aurait progressé, quand l'éducation serait développée, eh bien on irait progressivement vers des sociétés relativement unanimes. Or, ça n'est pas le cas. Les sociétés modernes ne sont pas des sociétés unanimes, mais des sociétés très divisées. Et donc, l'élection représente une partie de la société, mais pas toute la société. D'où cette grande question de trouver les moyens de combler cette différence. Et comment la combler ? Ben, c'est le rôle qui est joué, en quelque sorte, en partie, par la place plus importante qu'ont dans nos sociétés les conseils constitutionnels ou les cours constitutionnels. Une constitution est censée représenter, en quelque sorte, pourrait-on dire, la mémoire de la volonté générale. Une constitution, c'est les principes généraux qui, eux, ont une dimension, en tout cas, plus considérée comme plus consensuelle. Et la preuve, c'est d'ailleurs quand le Congrès, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, changent la Constitution, ben leur vote doit être acquis avec 60% des voix. Donc on dit qu'il faut une majorité qualifiée pour travailler la Constitution. Se sont développées aussi des institutions indépendantes. Les institutions indépendantes, elles représentent l'impartialité. Donc en étant au-dessus des partis, elles doivent trouver un appui plus consensuel dans la société. Mais rien qu'en prenant ces deux exemples, on voit à quel point l'élection reste au cœur de la démocratie, mais que l'élection, elle ne produit plus les effets démocratiques que l'on attendait. Et pourtant, l'élection ne peut pas s'en passer. Parce que comment choisir des personnes ? Il y a trois techniques pour choisir des personnes. On peut les élire, on peut les tirer au sort, ou on peut les choisir en leur faisant passer des examens. Alors faire passer les examens, vous voyez ce que ce serait que de faire passer un examen de président de la République. Là, ce serait quand même assez compliqué. Qui composerait le jury ? Qui corrigerait les copies ? Qui définirait les programmes ? Alors là, ce serait la foire d'empoigne. Donc au moins, l'élection a cet avantage, c'est que l'élection met tout le monde d'accord parce que 51 est supérieur à 49, ça tout le monde en est sûr. Et que l'élection ne juge pas les critères de chaque électeur. Chaque électeur a ses propres critères qui peuvent être complètement différents. Et l'élection repose sur l'acceptation qu'il y a une infinité des critères des électeurs. Donc l'élection, pour ça, elle est supérieure au concours ou à l'examen. Il y a un pays dans le monde aujourd'hui qui théorise le fait que l'examen vaut mieux que l'élection, c'est la Chine. En Chine, le suffrage universel est critiqué en ce nom-là, en disant le suffrage universel est moins bon que l'examen, parce que l'examen, on vérifie des compétences. Mais ça marche bien parce qu'en Chine, il y a en quelque sorte le parti communiste qui représente, c'est lui qui fixe les programmes et c'est lui qui fait passer les examens. Donc là, il y a une simplification des choses. Et puis, la deuxième façon de choisir, en dehors de l'élection et de l'examen, c'est le tirage au sort. Alors le tirage au sort, faudrait-il tirer au sort le président de la République ? Ce serait quand même assez problématique. Mais on peut tirer au sort, on le voit bien. Il y a ici le Parlement de Rennes, qui est tout de même une institution très importante. Ben, tous les procès d'assises qui se déroulent ici, on tire au sort. Pourquoi ? Parce que le tirage au sort est la façon de valoriser la démocratie comme le pouvoir de n'importe qui. La démocratie, c'est à la fois le pouvoir majoritaire, mais ça doit être aussi le pouvoir de n'importe qui. Et je crois qu'actuellement, dans nos sociétés, on est en train un peu de redécouvrir le principe du tirage au sort. Alors, il est depuis longtemps existant à travers les jurys criminels. Et d'ailleurs, les jurys criminels ont été mis en place avant le suffrage universel. Et c'est le principe du tirage au sort dans le jury criminel qui a souvent servi de base à déterminer qui pouvait devenir électeur. Donc c'est quelque chose de très important dans les démocraties. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des expériences de jury citoyen, par exemple, ou des expériences qu'on appelle de conférences citoyennes, où des citoyens tirés au sort peuvent être mis en situation de discussion, de délibération, pour préparer des discussions publiques. Donc on est dans un moment où on voit bien que l'élection, elle est à la fois le cœur de la démocratie, mais un cœur problématique.
Est insuffisant parce qu'elle ne garantit pas justement le bon gouvernement. Pierre-Rosan Vallon, c'est là où je voudrais que vous nous expliquiez ce qu'est le bon
gouvernement. Voilà, c'est
l'élection valide la personne qui va gouverner, mais n'a aucun poids sur la manière de gouverner par la suite.
Non, alors on peut dire que c'est d'autant plus important qu'on vit dans des sociétés dans lesquelles le pouvoir central est devenu le pouvoir exécutif. Parce que quand le pouvoir le plus important était le pouvoir législatif, et dans l'histoire de la démocratie, on a toujours considéré que c'est le pouvoir législatif qui devait être le premier pouvoir, puisque c'est la loi qui doit gouverner. Et si la loi doit gouverner, c'est ceux qui font la loi qui sont les plus importants, c'est-à-dire les législateurs. Et une assemblée, elle peut plus facilement avoir un côté représentatif. Parce qu'une assemblée, sur des centaines de personnes, vous pouvez avoir des hommes, des femmes, des personnes de différentes professions. Et ceci d'autant plus qu'autrefois, dans une assemblée, les partis politiques avaient une base sociologique, pourrait-on dire. Si on votait communiste, c'était des ouvriers qui allaient au pouvoir. Si on votait socialiste, ça pouvait être des employés ou des instituteurs. Si on votait tel parti de démocratie chrétienne, on savait qu'on aurait une représentation d'une certaine tonalité. Et or, quand on élit une personne ne peut pas avoir de caractère représentatif. Une personne, sauf à prétendre être la société tout entière. Une assemblée peut être à l'image d'un pays, dans l'idéal, mais une personne ne peut pas être à l'image d'un pays. Une personne, elle est un gouvernant, elle est un décideur. Donc, pour cette raison-là, il y a une qualité représentative qui est moins forte. Mais surtout, dans la politique ancienne, pourrait-on dire, quand on votait pour un programme autant que pour des personnes. Je rappelle tout de même que dans la société française, il y avait une dimension de long terme ou de moyen terme dans l'élection. Les programmes, c'est ce qui pouvait se mettre en place sur les 5 ans. Et ça allait de pair avec une société qui se représentait son avenir à moyen terme. Encore dans les années 1970, il y avait un organe central dans la vie publique qui était le plan, la planification, le commissariat au plan. Et qu'à ce moment-là, le Parlement votait le taux de croissance sur 5 ans. Et donc le Parlement disait le taux de croissance va être de 5,5% entre 1970 et 1975. On voit aujourd'hui que la dimension de programme, elle a une importance qui diminue. Elle a une importance qui diminue pour deux raisons. La première des raisons, c'est qu'il y a un tel écart entre le langage du discours électoral, le langage des campagnes et le langage de l'action réelle, qu'il y a forcément une perte en ligne. Je dirais que nous sommes dans des sociétés, plus l'élection est personnalisée, plus l'élection va valoriser le fait qu'un candidat gagne sur ses capacités à faire des promesses, sur ses capacités à rassurer l'électorat. Alors quand il gouverne, il doit être confronté aux faits. Celui qui est le champion dans une campagne, c'est celui qui dit « yes, we can ». Et celui qui gouverne, c'est celui qui dit « sorry, we cannot ». Donc il y a cet écart considérable. Et puis il y a aussi le fait que nous vivons dans un monde beaucoup plus incertain. Nous vivons dans un monde dans lequel notre situation est déterminée par des crises internationales, notre situation est déterminée par des conflits. Et ça n'est pas simplement, je dirais, notre détermination qui dessine le monde. Donc, il y a un écart qui tend à devenir croissant entre ce que valide l'élection et puis ensuite ce que vont faire les gouvernants. Donc, on peut dire, pour simplifier, que l'élection, elle donne un permis de gouverner, mais avec un grand problème, c'est que c'est un permis de gouverner qui n'est pas assorti d'un code de gouvernement. Quand vous passez votre permis de conduire, mais il y a un code de la route à respecter. Et c'est même un permis à points. Donc, si vous ne respectez pas le code de la route, vous perdez des points. Le permis de gouverner, c'est autre chose. C'est un permis dans lequel il n'y a pas de code de gouvernement, il n'y a pas de sanction. Donc, je pense que au moment, à une époque des sociétés dans lesquelles le pouvoir central est devenu le pouvoir exécutif, on voit bien aujourd'hui que le Parlement, la fonction du Parlement, c'est d'épauler le gouvernement, ou c'est de le critiquer. Eh bien, dans ces conditions-là, il est très important de comprendre que nous vivons dans des sociétés démocratiques qui sont hémiplégiques. C'est des sociétés qui ne marchent que sur une jambe. La jambe de la nomination qui donne un permis de gouverner, mais il n'y a pas de l'autre côté la mise en place d'un code de gouvernement démocratique. C'est-à-dire que la démocratie ne doit pas simplement être une procédure. La démocratie doit être aussi une qualité de l'action. Et c'est ce que j'ai voulu en quelque sorte développer dans ce livre. C'est montrer que nous étions dans un moment où il fallait faire une deuxième révolution démocratique. La première révolution démocratique, c'est quand on est passé de pouvoirs qui étaient déterminés par la tradition, qui étaient déterminés par la succession, des pouvoirs héréditaires, des pouvoirs extérieurs à la société, à des pouvoirs engendrés par la société. Ça, c'est la révolution du suffrage universel. Mais cette révolution du suffrage universel, on essayait de la perfectionner, comme je l'ai dit tout à l'heure, en améliorant les techniques électorales. Mais maintenant, nous devons faire une deuxième révolution, et cette révolution, c'est celle du gouvernement démocratique, et pas simplement celle, je dirais, de la nomination démocratique des gouvernants.
Avant d'en revenir au bon gouvernement et aux principes que vous développez dans votre livre, le problème que vous avez décrit est-il plus important en France que dans presque n'importe quel autre pays démocratique, au moins en Europe et en Occident, parce que à ce gouvernement, nous avons rajouté une fonction qui est celle du président de la République, qui gouverne, qui incarne, qui règne presque sur le pays.
Alors ça, c'est une question très importante, parce que jusqu'à très récemment, l'idée répandue était de penser qu'il y avait une exception française. Une exception française, c'est-à-dire que l'élection du président de la République au suffrage universel, qui était décidée par un référendum en 1962, a été, à cette époque, je mets de côté, on pourra en parler dans les questions si vous voulez, la question des États-Unis, mais était à cette époque une innovation, puisque presque partout, les gouvernements étaient en quelque sorte nommés par les majorités parlementaires. Et donc, la France apparaissait être une exception. Mais aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte peu à peu que ce qu'on peut appeler le modèle présidentiel, dont la France aurait incarné en quelque sorte non simplement la perfection, mais aussi toutes les dérives, avec les dangers bonapartistes, avec la tentation d'un pouvoir solitaire, et bien que c'est devenu la règle générale dans le monde. C'est devenu la règle générale dans le monde, même dans les endroits où il n'y a pas d'élection au suffrage universel. Il n'y a pas d'élection du chancelier au suffrage universel en Allemagne. Le président de la République est uniquement représentatif. Ben, en Angleterre, la reine, par définition, elle n'est pas élue. Mais on peut dire qu'il y a un quasi-présidentialisme, au sens que lorsqu'on vote aux élections législatives en Allemagne, on vote pour ou contre Merkel. En Grande-Bretagne, on vote pour ou contre Cameron. Alors, quand on regarde d'un point de vue européen, on ne voit pas très bien, effectivement, du point de vue institutionnel, la chose. Pourquoi ? Parce que l'Europe, en fait, reste le continent qui est le conservatoire des formes politiques du XIXe siècle. Je rappelle tout de même qu'il y a encore 7 monarchies en Europe. Il y a encore 7 monarchies en Europe. Lorsque les Espagnols sont sortis de la dictature, ils ont opté pour la monarchie. En Roumanie, il y a eu un référendum pour savoir si on rétablissait la monarchie. Quand l'Italie est sortie du fascisme après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un référendum pour savoir si on retournait ou pas à la monarchie. Donc, je dirais, la tradition monarchique, elle a eu l'image en Europe d'être, à cause peut-être de ce qu'a été l'évolution anglaise, d'être une des formes garantissant l'état de droit. Mais ça, c'est une exception dans le monde. De la même façon que le fait que l'Europe était le continent des totalitarismes a rendu pressant le fait d'avoir un gouvernement qu'une dimension parlementaire prononcée. Je dirais, au 19e siècle, Gambetta disait, tout bon républicain doit se méfier des personnalités excessives. Eh bien, je crois aujourd'hui que nous vivons dans un monde de personnalités excessives. Et que c'est ça le grand problème contemporain. Donc, partout dans le monde, le modèle présidentiel est devenu le modèle universel. Mais on voit partout dans le monde aussi que ce modèle universel, il pose des problèmes. Quand vous voyez le cas aujourd'hui de la Turquie ou le cas de la Russie, nous avons des systèmes présidentiels, mais dans lequel le système présidentiel n'est pas équilibré par des contre-pouvoirs. Donc on a une élection, on a une caricature de démocratie électorale. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie électorale, avec dans le cas russe peut-être un certain nombre de fraudes, et en même temps, il n'y a pas du tout de code de gouvernement. Donc on voit comment des démocraties présidentielles, dans lesquelles on n'a pas mis en place des procédures de bon gouvernement, peuvent être des démocraties qui évoluent vers l'autoritarisme. Ou même la démocratie peut être la voie d'entrée dans l'autoritarisme. Ou si on prend des exemples latino-américains, le populisme latino-américain, c'est lorsque quelqu'un d'élu dit je représente toute la société. Et comme je représente toute la société, eh bien c'est moi seul qui suis légitime et tous les pouvoirs d'opposition ou les contre-pouvoirs ne représentent que des intérêts particuliers. Et donc, ces intérêts particuliers, je suis démocratiquement légitimé à les museler. C'est le raisonnement que développait Chavez ou que développe encore aujourd'hui Maduro au Venezuela. C'est aussi, on regarde dans l'exemple bolivien, vous savez qu'il y a eu un référendum en Bolivie pour savoir s'il pouvait y avoir un quatrième mandat. Parce qu'un des garde-fous des régimes présidentiels, c'est la limitation du nombre de mandats présidentiels. Parce qu'à ce moment-là, ça pourrait être, on pourrait revenir au Second Empire où on dit, ben, on va voter pour la dernière élection, maintenant on va mettre en place l'Empire. Bon, donc ça, c'était le système de Napoléon III. Et beaucoup de régimes démocratiques autoritaires, et ces mots, hélas, vont ensemble un certain nombre de pays, de ces régimes démocratiques autoritaires, se repèrent au fait qu'ils veulent mettre en place des procédures pour changer la Constitution pour que le nombre de mandats puisse devenir finalement indéfini, quoi. C'est-à-dire qu'on veut toujours se présenter pour un nouveau mandat, et à ce moment-là, ben, la démocratie, elle devient vraiment l'équivalent d'un césarisme ou du bonapartisme.
Ce sont des garde-fous, je reviens sur l'exemple français, ce sont des garde-fous, tous les organismes qui ont été créés ces dernières années, qui visent, puisque le Parlement, la situation est compliquée, mais des organismes qui se réclament comme indépendants, qu'ils sont en partie, qui visent à contrôler, à vérifier, à surveiller, non pas le pouvoir, mais des secteurs du pouvoir.
Pour une part, il y a deux types d'organismes de surveillance qui existent aujourd'hui. Il y a des organismes de surveillance qui sont les organismes traditionnels, par exemple de contrôle des comptes de la nation. C'est le rôle de la Cour des comptes. La Cour des comptes est une administration indépendante. Ce sont des magistrats à la Cour des comptes qui surveillent les comptes de la nation. On voit bien que si on se contentait de surveiller la comptabilité, ça n'irait pas très loin. Donc la Cour des comptes, peu à peu, notamment grâce à Pierre Joxe et à Philippe Séguin, a en quelque sorte pris sur elle-même d'augmenter un peu son pouvoir. Donc ça, c'est un pouvoir de contrôle positif. Mais ce pouvoir de contrôle, il faut bien remarquer que la grande institution qui historiquement était chargée de contrôler le pouvoir, c'était le Parlement. Le rôle du Parlement, c'était d'être celui qui évaluait l'action gouvernementale, celui qui pouvait la sanctionner, celui qui pouvait la juger, celui qui pouvait l'évaluer. Et toutes ces fonctions de contrôle parlementaire, quand on ouvre les livres du 19e siècle, c'est ça. Le Parlement est l'organe qui met en place le pouvoir exécutif et qui le contrôle. C'est en quelque sorte le contrôleur, celui qui nomme et celui qui contrôle le pouvoir exécutif. Or aujourd'hui, le Parlement n'a plus cette fonction de contrôle pour une raison très simple, c'est qu'il a simplement une fonction soit de soutien, soit de critique du pouvoir. Et on le voit bien actuellement, le Parlement en France, le Parlement neuf, n'est plus le législateur. Il est celui qui approuve les lois proposées par le pouvoir exécutif. Il approuve les lois. Alors, il les approuve avec quelques petits marchandages, bien sûr. C'est-à-dire, s'il y a pour que les députés se comportent bien, eh bien, on fait des petits amendements pour eux, on leur donne de temps en temps une petite prime, une petite mission, on distribue quelques médailles, et donc le processus législatif devient très long, non pas parce qu'une vraie délibération chez les députés, mais parce qu'on marchande leur voix. On marchande leur voix pour que ils acceptent les propositions du pouvoir, mais donc ça n'est plus un Parlement délibérant et faisant la loi, c'est un Parlement marchandant son adhésion, ou au contraire marquant son opposition.
Et quand il est du côté du gouvernement, ce sont les députés qui vont se faire les porte-parole du gouvernement auprès des citoyens, c'est-à-dire que la représentativité a changé de sens.
Et changé à l'inverse. Avant, on peut dire que le propre des députés, c'était de représenter la nation devant les pouvoirs. Aujourd'hui, le rôle des députés, c'est de défendre le gouvernement devant leurs électeurs, donc ou bien de le critiquer. Mais donc, c'est une fonction complètement différente. Et donc, il y a eu, de ce fait même, de l'émergence de la centralité du pouvoir exécutif et de la diminution conséquente du rôle du Parlement, il y a eu une atrophie de ses fonctions de contrôle, d'évaluation, de mise en jeu de la responsabilité. On le voit bien aujourd'hui, quand il y a un problème, on sort le 49-3. Et le 49-3, ça veut dire, c'est l'épreuve de vérité, donc il n'y a plus à discuter. On est pour ou on est contre. Il n'y a plus de délibération à mener. C'est ce qu'on appelle en termes constitutionnels le parlementarisme rationalisé. Parce que ces formes de parlementarisme rationalisé, c'est un mot très élégant, mais c'est ce que ça cache. Hein. C'est de dire qu'il y a la suprématie de l'exécutif. Même si, par la réforme constitutionnelle de 2008, l'usage du 49-3, par exemple, est un peu limité. On a le droit de l'utiliser que deux fois par session parlementaire, et en plus, dans tous les cas que l'on souhaite, pour le budget et la sécurité sociale.
Alors, question très naïve, devant qui l'exécutif rend des comptes ?
Alors, l'exécutif, justement, il ne rend pas assez de comptes. Et c'est pour cela qu'il faut inventer des institutions qui soient des institutions de reddition de comptes. Alors, pour les comptes, j'ai parlé tout à l'heure du rôle de la Cour des comptes, mais il faudrait aussi qu'il y ait des organisations citoyennes qui puissent vérifier cela. Le citoyen actif ne peut plus simplement être électeur. Le citoyen actif, c'est celui aussi qui peut être le contrôleur, celui qui peut être le surveillant, celui qui a l'œil sur les pouvoirs. Vous savez, dans l'imagerie de la Révolution française, il y a deux façons de parler du peuple. Le peuple, c'est une voix, et le peuple, c'est un œil. Donc je dirais que l'histoire de la démocratie a mis l'accent sur la voix du peuple. Et le bulletin dans l'urne, c'est s'exprimer sa voix. Mais dans toute l'iconographie révolutionnaire de la Révolution française, autant que la voix du peuple, ce sont les yeux du peuple qui comptent. C'est-à-dire cette fonction de surveillance, avoir l'œil sur les pouvoirs. Alors, on a mis parfois certaines institutions en place pour avoir l'œil, non pas sur les pouvoirs, mais sur les élus. C'était, après l'affaire Cahuzac, le rôle qui a été dévolu en 2013 avec la mise en place de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. et cette haute autorité pour la transparence de la vie publique, c'est l'institution la plus développée au monde sur ce point-là actuellement. Elle contrôle quand même 9000 personnes, c'est-à-dire bien sûr les parlementaires, les ministres, les cabinets ministériels, les magistrats importants, les autorités indépendantes. Ça fait 9000 personnes dont les patrimoines, les revenus sont contrôlés de près. Et il y a un pouvoir d'investigation qui est extrêmement élevé de cette commission. Et vous avez peut-être vu récemment des personnalités politiques qui ont été traduits en justice à la suite, je dirais, des signalements de cette haute autorité pour la transparence de la vie publique. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte de loi qui a mis en place la haute autorité pour la transparence de la vie publique prévoit que cette haute autorité peut s'appuyer sur des organisations citoyennes. Et en l'occurrence, il y en a une qui, dans ce domaine de l'intégrité, pourrait-on dire, de la lutte contre la corruption, a joué un rôle non négligeable, qui est la Transparency International. Et Transparency International a été associée aux travaux de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il y a aussi une autre organisation en France, une association qui s'appelle Anticor, Anticorruption. Donc je crois que peut-être là, on a le modèle où une institution publique peut s'appuyer aussi sur des institutions de mobilisation citoyenne. Et là, il faut évidemment faire en quelque sorte un bilan de ce que peut-être, ce que peuvent être les grandes lignes directrices, les grandes directions dans lesquelles il pourrait y avoir des pouvoirs de contrôle et de surveillance. Et c'était un peu l'objet de mon livre que de faire ça.
Vous avez dit que le citoyen est celui qui a l'œil sur le pouvoir, mais finalement, ce que vous regardez de nous raconter, c'est juste un œil, celui de la visibilité. Ce n'est pas suffisant aussi pour que le citoyen puisse contrôler, puisse entretenir un autre rapport avec le gouvernant. Il faut aussi qu'il puisse comprendre comment les gouvernants prennent leurs décisions. Ça, c'est une de nos grandes carences actuellement.
Oui, je pense qu'il y a eu un manque de lisibilité, c'est-à-dire que l'action gouvernementale n'est pas soumise, je dirais, et n'est pas obligée du tout d'expliquer véritablement ses objectifs, ce qu'elle fait. Et du même coup, il y a le sentiment que ça va dans tous les sens, que c'est ballotté au gré, en quelque sorte, des événements, des manifestations, des pressions diverses. Or, un monde qui est illisible est un monde dans lequel on perd pied. Un monde qui est illisible, c'est un monde sur lequel on n'a pas prise, et donc c'est un monde dans lequel on se sent dominé, on se sent désapproprié. Je pense que nous devons réfléchir à une expression qui est une expression classique, qui est dire la démocratie, c'est quand le peuple prend le pouvoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire prendre le pouvoir ? Prendre le pouvoir n'est pas une chose. Hein, ça, c'est une des grandes leçons, je dirais, des travaux de personnes comme Michel Foucault ou de sociologues, des organisations comme Michel Crozier. Le pouvoir est une relation. Donc, prendre le pouvoir, c'est une certaine façon de s'approprier et de contrôler la relation entre gouverné et gouvernant. C'est cela, véritablement, la question clé. Alors autrefois, il y avait l'idée que prendre le pouvoir, ça pouvait être le peuple prend le pouvoir. Mais quand le peuple prend le pouvoir, ça n'est jamais le peuple en général. C'est toujours quelques personnes de ses représentants. Alors évidemment, on peut dire comme Staline, le parti communiste représente le peuple, le comité central représente le parti communiste, le secrétariat politique représente le comité central, et moi je représente le secrétariat politique. Donc je représente la société. Et c'est pour ça que Trotsky disait, nous sommes beaucoup plus forts que Louis XIV. Louis XIV disait, l'État c'est moi, nous pouvons dire, la société c'est nous. Donc s'il n'y a pas cette... Et là on pouvait dire, donc, à travers moi, le peuple exerce le pouvoir. Et c'est d'ailleurs encore aujourd'hui dans des régimes beaucoup moins dictatoriaux et totalitaires, ça va de soi, mais c'est la rhétorique qu'il y a dans le populisme latino-américain. En disant à travers le leader, eh bien le peuple exerce directement le pouvoir. C'était notamment la grande thématique qu'il y avait chez Perón en Argentine. en disant le peuple gouverne à travers nous. Mais ça, c'est quand même un subterfuge. Donc je pense que la notion de prendre le pouvoir veut dire davantage contrôler le pouvoir et contrôler la relation de pouvoir entre gouverné et gouvernant, c'est-à-dire s'approprier le pouvoir. Et s'approprier le pouvoir, c'est-à-dire l'obliger à être lisible, l'obliger à être transparent, l'obliger à rendre des comptes, l'obliger à se soumettre à des épreuves de responsabilité. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes encore à un moment où nous sommes simplement dans les premiers balbutiements de cette nouvelle page de l'histoire des démocraties. Et que cette nouvelle page de l'histoire des démocraties, il est très urgent de commencer à l'écrire, parce que nous voyons partout dans le monde, j'en ai cité quelques exemples tout à l'heure, se multiplier, monter en puissance les démocraties autoritaires. Démocratie parce que des pouvoirs élus au suffrage universel, mais autoritaires parce que considérant que l'élection c'est un chèque en blanc et qu'il n'y a pas besoin ensuite d'institutions de contrôle, d'institutions d'évaluation des personnes aussi bien que des politiques.
Pour tourner cette page, est-ce qu'il n'y a pas actuellement deux limites justement qui empêchent à renouveler cette démocratie? La première, c'est la grande complexité des sujets dont le politique a traité tous les jours. Et la seconde, c'est que le peuple, ça devient peut-être compliqué à caractériser, surtout dans des sociétés très individualisées.
Bien sûr que le peuple est difficile à caractériser parce que même chacun d'entre nous, il est divisé entre producteurs et consommateurs. Il est divisé, on le voit bien, à travers toutes les questions de l'agriculture aujourd'hui. C'est aussi pour une part une tension entre le producteur et le consommateur. Et s'il n'y a pas un équilibre entre les deux, ben effectivement, il y a des déchirements dans la société. Mais une société démocratique, c'est justement une société aussi qui construit le vivre ensemble. C'est une société qui ne parle pas simplement et qui ne parle pas simplement des divisions qui existent, mais qui se demande comment faire quelque chose, une société qui soit une société relativement intégrée, une société dans laquelle il y ait une réduction des inégalités, une société dans laquelle il y ait des chances plus égales pour tous. Donc on peut dire que l'idée d'un peuple est une idée à construire. Et il n'y a pas un peuple qui serait déjà là, construit, existant. La démocratie, c'est construire une société. Et ça n'est pas simplement, et c'est inventer une histoire collective. Et ce n'est pas simplement, on le voit à partir de cet exemple, ce n'est pas simplement une façon de nommer des dirigeants.
Et la question de la complexité, est-ce qu'elle ne vient pas gêner justement ce bon gouvernement?
La question de la complexité, elle vient du fait que c'est aussi beaucoup d'arbitrage à faire. Et que là, il faut les rendre en quelque sorte présents dans la société. On voit bien que cette complexité, après tout, on peut prendre l'exemple, puisqu'il est d'actualité ici, comme celui de l'aéroport Notre-Dame des Landes. Quel est le bon sujet de la décision démocratique ? Le bon sujet, c'est quelque chose qui intéresse l'économie régionale, l'économie nationale. Après tout, on peut dire que ceux qui défendent le long terme représentent quelque chose de décisif pour l'avenir de la société. Mais comment donner sa place au long terme dans la société aujourd'hui? J'étais très frappé récemment de lire une chose à laquelle je n'avais jamais pensé. C'est que quand on discute à propos de la COP sur les changements climatiques, on dit voilà, il ne faut pas dépasser une élévation de 2 degrés pour le siècle à venir si on veut éviter les catastrophes. Mais le problème est que même si on limite à 2 degrés, cela a des conséquences sur des milliers d'années à venir. Et on a montré que augmenter la température de 2 degrés avait des conséquences sur le climat, la montée des eaux, considérables en 2100. Mais qu'en l'an 3000, en l'an 4000, ça pouvait être, même en restant stable, une augmentation de 25 mètres des océans. Alors, quand on regarde une chose comme ça, comment réagir? Est-ce qu'au fond, la démocratie, c'est quand même préserver les générations futures? Mais est-ce que la démocratie peut résonner en l'an 3000? Là, comme dirait Keynes, à long terme, nous serons tous morts.
Qu'importe dans la démocratie aujourd'hui, c'est les emplois de actuellement.
Oui, mais je crois justement que ça, c'est un grand sujet des démocraties. Comment, actuellement, c'est pour cela que la question de l'environnement est décisive. La question de l'environnement est décisive, non pas simplement pour des questions de bien-être immédiat, mais parce qu'elle pose la question de, au fond, qui est le sujet pertinent de la démocratie. Le sujet pertinent de la démocratie, c'est le peuple, mais on peut dire aussi que c'est l'humanité. Et si c'est l'humanité, c'est beaucoup plus long terme. Mais si c'est uniquement l'humanité, alors à ce moment-là, c'est les savants en humanité qui vont décider de tout. Bon, on voit qu'on pourrait avoir un glissement vers un autre type d'autoritarisme. Donc, la démocratie, c'est aussi une réflexion permanente et ouverte sur quel est le sujet démocratique pertinent. Quel est le peuple qui doit être convoqué et qui doit en quelque sorte donner à la fois son avis et être celui qui décide sur ce qu'on doit faire.
Alors, parmi les principes du bon gouvernement, vous en avez rajouté un qu'on a, je crois, peu évoqué, c'est celui du parler vrai. Je voudrais que vous nous expliquiez comment vous l'entendez à l'heure des débats qui sont, ou la communication politique qui a pris le pas sur le parler vrai.
Le parler vrai, c'est une réflexion sur la démocratie qui date de l'Antiquité. Et cette définition de la démocratie, elle remonte aux Grecs, où un grand historien romain, mais qui parlait de la Grèce, disait que pour les Grecs, la démocratie, c'est deux mots. C'est le mot iségoria et parésia. Iségoria, c'est l'égalité sur l'agora. Donc, ça veut dire que la démocratie se définit par l'égalité de parole. Donc, c'est la définition de la citoyenneté. Le citoyen, c'est celui qui peut prendre la parole sur le forum et c'est celui qui vote à égalité avec les autres. Donc, c'est l'égalité de parole. Et puis, disait-il, c'est aussi la parésia, c'est le fait de parler vrai. C'est-à-dire, c'est le fait de regarder les choses en face. Or, en Grèce, un débat permanent, justement, a été de savoir est-ce qu'on regarde vraiment les choses en face. Et celui qui a posé cette question-là de façon permanente et incessante, ben c'est un grand orateur qui s'appelle Démosthène. Et Démosthène est celui qui a introduit, en quelque sorte, cette question du parler vrai au cœur de la vie démocratique. En disant « la démocratie, c'est que le peuple décide », mais il faut se poser les bonnes questions. Il faut regarder les réalités en face. Et à l'époque, il y avait tout un grand débat en Grèce sur la politique à avoir avec Alexandre le Grand, enfin ses successeurs, Philippe de Macédoine. Philippe de Macédoine, et il y avait beaucoup d'orateurs qui disaient « bon ben voilà, tout va bien se passer avec lui, etc. Il faut faire une alliance, c'est naturel. » Et Démosthène dit vous êtes aveugle, vous ne regardez pas la réalité en face. » Et il disait au peuple d'Athènes « secouez-vous, regardez la réalité en face. » Et au fond, cette question, elle est au cœur de la démocratie. Et aujourd'hui, elle est d'autant plus au cœur de la démocratie qu'il y a cet écart entre le moment électoral et le moment gouvernemental. Donc, le moment gouvernemental, il oblige à être confronté aux faits. Le moment électoral, il est celui où on peut davantage parler de ce qu'il faudrait faire, disons. Et le problème, c'est que nous, en tant que citoyens, on est un peu pris entre les deux. À la fois, on est révolté quand on a le sentiment qu'on nous berce d'illusions, quand on nous balance des belles paroles, mais en même temps, en partie, on aime bien aussi les belles paroles, parce que ça nous remet du bon au cœur, parce que ça peut dire, ben voilà, tout va s'arranger dans l'avenir. Donc chacun d'entre nous est aussi un citoyen divisé, entre une attente de parler vrai et puis la respiration de la promesse, si je puis dire. Il y a ces deux éléments-là, mais une fonction démocratique qui n'est pas assez remplie aujourd'hui, certainement, c'est d'être le gardien du parler vrai. Je crois qu'il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé dans l'histoire française et que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en écrivant un de mes derniers livres, c'est l'exemple de Clémenceau. Clémenceau, vous le savez, il prend le pouvoir, enfin il arrive comme chef du gouvernement à l'automne 1917, hein, au moment où vraiment tout se passe mal dans la guerre. Et tout se passe mal justement parce que Poincaré voit les choses de loin, dit des bonnes paroles, si je puis dire. Et Clémenceau comprend qu'il faut changer il faut changer de braquet, il faut changer de registre. Et ce qui m'a frappé, c'est d'apprendre qu'à ce moment-là, et il a fait dans des journaux de l'époque des discours très célèbres, des discours en disant nous nous berçons d'illusions, regardons la réalité en face. Et nous ne nous sortirons pas de cette épreuve si nous ne la regardons pas en face. Et à ce moment-là, j'ai appris que, il lisait beaucoup Démosthène. Et que Clémenceau, d'ailleurs, après la guerre, a publié un livre sur Démosthène. Il a publié un livre, donc, qui est une réflexion sur la continuité entre la notion de parler vrai telle qu'on la réfléchissait, dans la démocratie grecque, et puis, la notion de parler vrai pour cette période de la Première Guerre mondiale. Et c'est dans ce terme de parésia, il était remis en quelque sorte à l'honneur dans des cours qu'a fait Michel Foucault au Collège de France en 1980, où il a consacré tout un ensemble de cours à cette notion justement du parler vrai dans l'histoire grecque. Mais je pense que la citoyenneté active, c'est aussi d'être les gardiens du parler vrai.
Et d'être réactif. J'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous entendez dans la réactivité comme principe essentiel au bon gouvernement.
Alors, la réactivité, c'est pas un très bon mot en anglais, en français. En anglais, on dit la responsiveness. Ça veut dire le fait d'être dans le coup, d'être engagé, d'être en quelque sorte un agent dans la discussion, dans la délibération publique. Et donc le bon gouvernement, c'est aussi celui qui sollicite en quelque sorte la société. Et cette sollicitation, elle ne peut plus se faire simplement par le Parlement. Aujourd'hui, vous savez, il y a un grand débat sur le présidentialisme en France, en disant, bon, ben, le présidentialisme est un malheur, mais comme tout le monde est d'accord pour l'élection au suffrage universel, ou plutôt personne n'oserait proposer la suppression de cette élection au suffrage universel, donc c'est un mal qu'il faut tolérer. C'est un discours qu'on entend souvent, et en disant l'idéal serait de reparlementariser la démocratie.
Sauf qu'on a l'exemple de la trois des républiques précédentes qui nous sont pas très.
Voilà, je crois qu'on ne reparlementarisera pas la démocratie. En revanche, il faut réintroduire dans la démocratie les fonctions qui étaient les fonctions historiques du Parlement, c'est-à-dire ces fonctions d'évaluation, de mise en jeu de la responsabilité, de lisibilité, d'enquête, toutes ces fonctions historiques du Parlement doivent être restaurées. Donc c'est une restauration des fonctionnalités démocratiques parlementaires, mais non pas de l'institution parlementaire. Parce que l'institution parlementaire, elle va continuer à jouer son rôle, c'est sûr, mais elle ne peut plus être le cœur de la démocratie dans la mesure où c'est le pouvoir exécutif qui est le cœur de la vie publique.
Est-ce que pour vous, ça passe par le fait que l'exécutif ou le gouvernement ait la pleine souveraineté? La question ici, c'est la question du pouvoir partagé entre l'institution France et l'institution Union européenne.
On peut dire que comment appréhender cette question, je dirais, des sphères de la démocratie? Après tout, il y a la tentative ou la volonté de mettre en place des formes de démocratie universelle sur certains domaines. On peut dire que lorsque l'on met en place un tribunal pénal international, c'est qu'on veut mettre un tribunal des droits de l'homme au niveau international. Donc c'est une forme de démocratie universelle. Mais il n'y a pas de président du monde. Et ce serait quand même très problématique d'en avoir un actuellement. Et surtout, qu'est-ce qui fait, on peut dire que, prenons l'exemple européen. Et l'Europe est intéressant parce qu'on peut dire que Le projet de l'Europe, c'est un petit peu celui d'un universalisme limité et efficace. Le projet européen, il a d'abord reposé sur la volonté de conjurer du XXe siècle. L'Europe, ça a été fait pour conjurer les malheurs de la Deuxième Guerre mondiale, les malheurs du fascisme et du nazisme, après les malheurs de la dictature avec l'Espagne, la Grèce et le Portugal, après le malheur du totalitarisme soviétique, après 1989. Donc l'Europe a été en quelque sorte le nom que l'on a donné et l'objectif que l'on s'est donné pour conjurer ce qu'ont été les grands malheurs historiques du XXe siècle en Europe, qui était à la fois le continent d'invention de la démocratie, mais le continent des pires perversions de la démocratie. L'Europe, c'est cela. C'est le continent d'invention et le continent de perversion. Il y a eu le catalogue de toutes les perversions de la démocratie. Mais en même temps, le grand problème de l'Europe, c'est qu'elle a construit un marché commun, donc elle s'est construite par le marché, elle s'est construite par le droit, et le droit, les cours européennes de justice sont, comme la Cour européenne des droits de l'homme à ses côtés, sont extrêmement efficaces. La France est souvent condamnée, justement. C'est un bon exemple. Mais ça n'a pas été la construction d'un espace démocratique au sens d'un espace de redistribution. Quand on réfléchit à l'Europe, le chiffre qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le budget européen n'a pas changé entre la signature du traité de Rome et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 60 ans, le budget européen est resté à 1% du produit intérieur brut. Alors, quand des petits pays comme la Grèce ou le Portugal sont rentrés dans l'Europe, avec les ce qu'on appelle les fonds régionaux qui représentent 0,4% du PIB européen, rapporté à des petits pays à l'époque un peu arriérés comme la Grèce, ça permettait de construire beaucoup de routes, beaucoup de ponts, beaucoup, on voyait partout quand on voyageait dans ces pays-là, ponts payés par l'Europe, etc. Mais les dépenses publiques dans un pays comme la France redistribuent la moitié du PIB. Donc on voit bien que l'Europe a été une communauté historique, c'est-à-dire qu'elle a Elle s'est construite en pensant son histoire. C'est une communauté de droit, c'est une communauté de marché, mais ça n'a pas du tout été une communauté démocratique au sens d'une communauté de redistribution. Et c'est ça, on peut dire, que ce qui fait aussi une société démocratique, c'est un espace de redistribution accepté. Une communauté démocratique, c'est un espace de construction de la solidarité. Or cela n'existe, il n'y a pas d'institution en Europe, et on en a bien vu les problèmes affleurés avec la monnaie commune qui à certains moments implique ou impliquerait des formes de solidarité, et puis un usage simplement technique de la monnaie, si je puis dire, au service simplement la monnaie d'un marché commun. Et donc nous voyons bien comment l'Europe est menacée aujourd'hui justement, parce qu'elle n'a pas été une communauté démocratique au sens d'une une collectivité qui se reconnaissait des devoirs mutuels, et à travers la tension entre les différents pays et à l'intérieur de chaque pays qu'il y a aujourd'hui sur la question des réfugiés, on en voit l'illustration parfaite. Et donc, la démocratie, idéalement, elle devrait devenir plus cosmopolite. Mais la démocratie ne peut s'élargir au-delà des États-nations que s'il y a des formes de redistribution. Or, aujourd'hui, dans le monde, nous voyons au contraire que c'est à l'intérieur même des États-nations des tentations ou des tentatives de sécession. Je dirais, les indépendantismes qu'il y a... Autrefois, les indépendantismes, c'était s'arracher des griffes d'un dominant. Aujourd'hui, les séparatismes, c'est quand on est plus riche qu'un autre, c'est dire que on ne veut plus faire bourse commune. Donc ce sont des séparatismes de l'égoïsme et non pas des séparatismes de l'émancipation. Je crois que toute la vision des séparatismes et de l'indépendance, ça a longtemps été comme au moment de la décolonisation. C'était se séparer, c'était s'émanciper d'une puissance dominatrice. Et aujourd'hui, très souvent, les l'aspiration à certaines formes de sécession émancipatrice, c'est ne plus vouloir faire état-providence commun avec d'autres. C'était cela qui était au cœur de la logique qu'il y avait, me semble-t-il, en Écosse. Hein, c'était le grand discours écossais. Nous ne voulons pas partager le pétrole de la mer du Nord avec les autres. C'est le grand débat qu'il y a aujourd'hui avec les Catalans, qui est la région économiquement la plus développée. Ça n'est jamais les pauvres qui veulent faire sécession. Hein, ça, dans le monde, ça n'existe pas. C'est toujours les riches qui veulent faire sécession. Donc on voit que là aussi, il y a une espèce de talon d'Achille intérieur aux démocraties, et que ce talon d'Achille, il repose sur le fait que c'est des sociétés dans lesquelles dominent les stéréotypes, dans lesquelles dominent les préjugés sur autrui. L'Italien du Nord pense que l'Italien du Sud est simplement quelqu'un qui n'aspire qu'à vivre d'assistance, alors que ceux du Nord sont ceux qui travaillent dur, etc., et donc n'acceptent pas ceux qui sont en quelque sorte les quémandeurs de subsides publics. Et c'est parce qu'il n'y a, je dirais, la société n'est pas assez démocratique, il y a ces choses-là. Déjà, en 1848, Michelet avait une expression qui m'a beaucoup frappé. Il disait « On ne pourra pas faire la démocratie si nous restons dans une terrible méconnaissance les uns des autres. » Or, aujourd'hui, nous voyons bien que nos sociétés vacillent et que la société européenne, les sociétés européennes vacillent parce que nous sommes dans une terrible méconnaissance les uns des autres. C'est que autour de l'immigration dominent des images, des préjugés, des stéréotypes sur des personnes, des religions, des origines qui rendent difficile la constitution d'un espace de solidarité et qui, au contraire, invite à construire des murs et des séparations. Donc on voit, à partir d'un exemple comme celui-là, là encore, que la démocratie, ça n'est pas simplement faire vivre des institutions qui rendent des comptes. La démocratie, c'est aussi un espace de délibération sur la construction d'un monde commun. Et c'est pour ça qu'avant d'avoir fait ce livre sur le bon gouvernement, j'avais fait un livre qui avait pour titre « La société des égaux ». La démocratie n'est pas simplement un régime, elle est une forme de société. C'est une chose qui me paraît décisive de rappeler, parce que nous voyons aujourd'hui que ce qui défait nos démocraties, c'est à la fois le fait que des pouvoirs s'éloignent de la société, qu'il n'y a pas assez de moyens de surveillance, de contrôle, et que de l'autre côté, les sociétés se défont elles-mêmes.
Une dernière question me concernant, Pierre-Rosan Vallon, avant les questions du public. Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste sur la venue de ce bon gouvernement tel que vous le décrivez? On voit que l'idée de transformer le gouvernement qui était porté par le projet de la 6e République, on entend de moins en moins parler, mais depuis quelques mois, quelques années, on voit des livres, des intellectuels ou des figures médiatiques venir proposer l'invention de mouvements citoyens, justement pour organiser un nouveau lien entre les gouvernants et les gouvernés.
Il est clair que l'institution centrale de la citoyenneté, ça a été les partis politiques. Les partis politiques, ils ont été inventés pour organiser le suffrage universel. Donc les partis politiques, ils ont été inventés pour transformer l'énergie électorale et pour donner son plein effet à l'énergie électorale. Eh bien, il faut des institutions citoyennes pour donner son plein effet, si je puis dire, à ces énergies de contrôle, de surveillance, de mise en jeu de la responsabilité, d'évaluation, et qu'aujourd'hui, on voit bien que le nombre d'adhérents dans les partis politiques, d'ailleurs, diminue, que l'envie d'aller militer dans les partis politiques est plus faible. Mais je crois que nous sommes au moment où on commence à voir, en quelque sorte, les premiers frémissements et les premières expériences d'institutions, d'associations citoyennes qui vont peu à peu construire, je dirais, cette nouvelle étape de la démocratie. Et c'est là qu'il y aura, en quelque sorte, la vitalité des démocraties et la ressource pour éviter que les démocraties ne tournent pas mal. parce que moi je n'aurais jamais pensé à ça il y a 7-8 ans encore. Mais nous voyons aujourd'hui que nous sommes dans une situation où les démocraties peuvent aussi se retourner contre elles-mêmes. Les démocraties peuvent se retourner contre elles-mêmes, c'est-à-dire les sociétés démocratiques et des sociétés qui vivent dans des formes de séparatisme intérieur, dans le phénomène de ghettoisation d'un côté, et puis de l'autre côté, une tendance des régimes, des gouvernants, à être de plus en plus lointains de la société. Et on pourrait revenir à la limite à ce qui était un peu le 19e siècle, c'est des alternances entre des périodes d'avachissement et des périodes de temps en temps d'éruption un peu volcanique. Je pense que la démocratie, justement, ça n'est pas cela. Et que ces frémissements dont je disais juste un mot, d'émergence de nouvelles institutions, c'est dans cette direction-là qu'il faut s'engager de plus en plus. Et à un moment où nous allons surtout penser à des élections, si je puis dire, puisque la prochaine échéance va être, tout le monde le sent bien, très, très importante, que l'élection soit aussi un moment de réflexion sur à la fois la centralité et puis la limite de l'élection. Parce que si on met toutes nos billes dans l'élection, eh bien nous mettons aussi toutes nos billes pour la déception. Donc soyons conscients de cela.
Ouais, merci, on n'a pas été déçus en tous les cas de cette matinée avec vous. Merci en tous les cas pour cette première heure et je vous propose de la poursuivre avec des questions du public et nous avons quelqu'un au troisième rang juste devant.
Merci beaucoup pour cet éclairage de la complexité, sur la complexité de la démocratie.